un podcast France Culture.
Et bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, lors de la clôture d'une conférence à l'ONU pour la paix au Proche-Orient, 17 pays dont l'Arabie Saoudite, le Qatar et l'Égypte appellent le Hamas à remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Précision dans un instant de Claude Guibal. Nous nous rendrons à Tokyo pour un point avec Karine Nishimura sur l'évolution et les conséquences du séisme qui s'est déclenché la nuit dernière au large des côtes de l'extrême-orient russe, à l'origine d'un tsunami qui inquiète les pays de l'arc pacifique. Dans l'actualité française, les inquiétudes des producteurs de cognac, représentés comme bien d'autres cet après-midi à Bercy, où sont reçues des organisations patronales et des fédérations qui représentent les filières industrielles impactées par les droits de douane américains. Enfin, avec Marion Ferrer, nous entrerons dans le détail d'un projet de loi cadre présenté ce matin en Conseil des ministres qui vise à faciliter la restitution des biens coloniaux. La conférence onusienne visant à insuffler un peu de vie à la solution à deux États, israéliens et palestiniens, a redit l'urgence de faire taire les armes à Gaza, c'était sa raison d'être. Moyennant quoi, deux points de ce texte attirent notre attention. D'abord, il condamne l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, ce que n'a jamais fait l'Assemblée générale de l'ONU. Ensuite, et pour la première fois, les pays arabes, les pays de la région du Proche et du Moyen-Orient appellent au désarmement du Hamas ainsi qu'à son exclusion de toute gouvernance de la Palestine. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Claude, le ministre français des Affaires étrangères parle d'un positionnement, je cite, historique.
Oui, c'est en effet un basculement diplomatique, car vous l'avez dit, pour la première fois, des pays arabes de premier plan, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, condamnent publiquement l'attaque du Hamas du 7 octobre. Il demande aussi ouvertement au Hamas de se désarmer et de céder le pouvoir à l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas. En parallèle, ils réaffirment leur soutien à la création d'un État palestinien viable dans les frontières de 67. Alors certes, ce n'est pas totalement ce qu'espérait la France qui co-présidait cette conférence avec l'Arabie Saoudite. La France qui souhaitait à l'origine que cette conférence fixe le cap d'une reconnaissance large de l'État de Palestine par la communauté internationale, assortie d'une reconnaissance en retour d'Israël par les pays arabes. Mais évidemment, l'aggravation catastrophique de la situation humanitaire à Gaza rend impossible cette reconnaissance mutuelle dans ce contexte. Malgré tout, cette position inédite, cette position forte, soutenue par plusieurs pays occidentaux, permet de relancer les discussions autour d'une solution à deux États. Un élan réamorcé par l'annonce surprise cette semaine par la France d'une reconnaissance de l'État palestinien en septembre à l'Assemblée générale de l'ONU, suivi de la Grande-Bretagne, qui est prête à faire de même s'il n'y a pas un changement d'attitude majeur d'Israël en faveur d'un cessez-le-feu et d'une paix durable. Et voilà que depuis cette conférence de New York, d'autres pays comme le Canada, l'Australie ou la Finlande disent désormais réfléchir à leur tour à cette reconnaissance.
Merci à vous, Claude Guibal. Le puissant séisme enregistré la nuit dernière au large de la péninsule de l'extrême-orient russe du Kamtchatka, séisme d'une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter, a conduit les autorités russes en premier lieu, mais aussi l'Alaska, Hawaï et le Chili à prendre des mesures d'évacuation. La Colombie a ordonné aux habitants d'évacuer les plages et zones côtières de deux départements bordés par le Pacifique. Une onde océanique d'une hauteur qui varie de 1,10 m à 4 m se dirige vers les îles Marquises. Le Japon est lui aussi en état d'alerte au tsunami. Les employés de la centrale nucléaire de Fukushima, eux aussi, été évacués. Les précisions depuis Tokyo de Karine Nishimura.
Voilà désormais près de 10 heures que le Japon est en alerte avec des recommandations pressantes d'évacuation qui ont touché jusqu'à 2 millions de personnes sur plus d'un millier de kilomètres de côte pacifique, du nord au sud-ouest. Des tsunamis en plusieurs phases ont été mesurés dans des dizaines de points de côte nippone avec des hauteurs allant de 10 cm à 1,30 m. Comme l'explique le professeur Fumihiko Imamura de l'université du Tohoku sur la chaîne publique NHK, le pire est peut-être pour plus tard.
Un tsunami ne vient pas directement depuis une seule direction, mais se répercute depuis plusieurs régions et peut tourner en s'amplifiant. Donc il est fort probable que l'alerte dure au-delà d'une demi-journée et dépasse même un jour. Lors du tsunami de mars 2011, il n'avait pas été possible de lever l'alerte avant un jour et demi.
L'agence de météorologie nationale a certes rétrogradé une partie du risque, mais redoute encore un tsunami dans les régions du nord-est. Même si on n'a pas déploré de victimes ni dégâts, c'est une journée angoissante, éprouvante pour des dizaines de millions de Japonais empêchés de rester chez eux ou de travailler, avec en outre des transports, commerces et services perturbés ou suspendus. Par ailleurs, le gouvernement japonais met en garde contre les fausses informations qui circulent, hélas, sur les réseaux sociaux.
Karine Nishimura, à Tokyo, la mégapole chinoise de Shanghai a évacué près de 283 000 personnes la nuit dernière à l'approche d'un typhon responsable de fortes pluies et de vents violents. Ce n'est pas la première mesure hostile à la lutte contre le changement climatique dont se vante volontiers Donald Trump, mais celle annoncée hier par le gouvernement américain pourrait, une fois finalisée, porter un coup sévère à la régulation des émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, n'a-t-elle pas été qualifiée de plus grande mesure de dérégulation de l'histoire des États-Unis par le patron de la désormais mal nommée Agence fédérale de protection de l'environnement. Bonjour Véronique Rubérotte.
Bonjour.
Véronique, il s'agit pour l'administration Trump de détricoter le socle, la base légale de mesures prises à l'échelle fédérale.
Alors de balayer d'un revers de la main une décision clé hein, qui sert vraiment de fondement à la lutte contre les gaz à effet de serre aux États-Unis, adoptée en 2009 pendant le premier mandat de Barack Obama, elle régule les émissions de CO2 américaines du pot d'échappement aux centrales à gaz ou à pétrole. En 2007, suite à un arrêté de la Cour suprême, l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, reconnaissait que les émissions des véhicules automobiles contribuaient à la pollution de l'air et étaient dangereuses pour la santé. Elle se déclarait compétente en 2009 pour réguler les émissions de CO2 en vertu d'une loi de 1970, le Clean Air Act. L'EPA s'était appuyé à l'époque sur un large consensus scientifique et sa décision avait été confirmée en 2009, donc après plusieurs recours judiciaires. En 2025, le patron de l'Agence fédérale de protection de l'environnement, Lee Zeldin, n'a, semble-t-il, pas la même perception de la lutte contre le changement climatique que celui de 2009. Les présidents américains non plus. Nommé par Donald Trump, Lee Zeldin, qui a annoncé donc cette décision mortifère dans l'enceinte d'une usine à camions dans l'Indiana, se réjouit, si elle est finalisée, eh bien de clouer le bec, je cite, à ces personnes qui sont prêtes à ruiner le pays au nom de la justice environnementale.
Alors Véronique, cette volonté de déréguler tant et plus va devoir tout de même franchir un certain nombre d'étapes.
Elle va être contestée en justice jusqu'à la Cour suprême qui quand même en 2009 était à l'origine de la régulation des émissions de CO2. Ce serait un vrai revirement de jurisprudence, mais possible aujourd'hui de la part d'une Cour très politisée constituée de 6 juges conservateurs et de 3 progressistes. Ils vont devoir quand même se prononcer sur des arguments juridiques de l'administration Trump qui ne tiennent pas la route. Mais en fait, le calcul de Donald Trump, eh bien, c'est de profiter de procédures interminables devant les tribunaux pour faire ce qu'il veut, ce qu'il peut aussi pour détruire toujours plus vite la planète.
Merci à vous, Véronique Rubérotte. Il est 12h37, vous écoutez le journal de France Culture. Cet après-midi, des organisations patronales et des fédérations qui représentent les filières industrielles impactées par les droits de douane américains seront réunis à Bercy. Plusieurs ministres seront présents pour évoquer les conséquences de l'accord évoqué une fois de plus le week-end dernier en Écosse entre les États-Unis et l'Union européenne, texte qui prévoit 15% de taxes sur la plupart des produits européens qui entrent sur le sol américain. Mais les autorités françaises qui dénoncent un accord déséquilibré veulent décrocher une exemption pour certaines filières et notamment celle des spiritueux. Menacés, les producteurs de cognac connaissent déjà une conjoncture économique compliquée. Les explications de Julien Groire.
Il y a 3 ans, sur 100 bouteilles de cognac produites en France, 47 partaient aux États-Unis. Aujourd'hui, 35. 3 raisons expliquent cela. D'abord, pendant le Covid, les ménages américains ont reçu d'importantes aides à la consommation qui ont boosté les ventes d'alcool. Ensuite, sous l'administration Biden, le secteur du cognac était déjà sous la menace d'une taxe. Cela a conduit les Américains à accumuler des stocks importants de spiritueux qui ont propulsé les ventes. Enfin, l'inflation a frappé les États-Unis, les prix du cognac ont augmenté et les grossistes américains ont mis du temps à écouler leurs stocks. En Chine, second plus grand importateur de cognac français, la situation n'est pas meilleure. L'administration chinoise a imposé aux grandes maisons d'augmenter leurs prix il y a 1 mois. La production générale de cognac a donc diminué et est revenue au même niveau qu'il y a 10 ans. Depuis l'année dernière, l'ambiance est donc morose chez les travailleurs du secteur. Laurent Lamuraille est délégué syndical CGT à la Maison Courvoisier, dont 1 bouteille sur 2 part aux États-Unis. Or, la direction a annoncé début juin vouloir licencier 27 personnes sur les 149 salariés.
Depuis 2 ans, l'activité est réduite quasiment de 50%. Certes, il y a des pertes de résultats nets sur l'entreprise Courvoisier, mais les fondations sont très très solides. On a un métier qui est unique dans le cognac, c'est les gens qui gèrent les eaux de vie dans les fûts, qui les comptabilisent, qui les transfèrent et tout ça. Et si on sort du monde du cognac, ce métier-là n'existe pas. Donc une personne licenciée dans ce métier-là, c'est reconversion obligatoire. C'est pas les climats habituels et surtout pas les climats dans lesquels on aime bien évoluer, quoi. C'est tendu, c'est méfiant, enfin, tout le monde est sur l'écran, quoi.
En première ligne de la guerre commerciale, certaines maisons du cognac comme Hennessy tentent de trouver un autre public, notamment en Europe où les risques de taxes douanières ne sont pas à l'ordre du jour.
La croissance économique a atteint 0,3% du produit intérieur brut au deuxième trimestre. Croissance meilleure qu'anticipée, remarque-t-on à Bercy. Le ministre de l'économie souligne que les entreprises, je cite, résistent bien à l'offensive protectionniste américaine et ses droits de douane de 10% en vigueur, eux, depuis le mois d'avril. Cette plainte adressée au parquet national financier par l'association AC Anticorruption pour obtenir la centralisation des récentes procédures financières concernant le Rassemblement national. Plainte pour détournement du bien public, favoritisme, prise illégale d'intérêt. Depuis juillet 2024, les juges se penchent sur les comptes de campagne des législatives et présidentielles de 2022, ainsi que sur ceux des européennes de 2024. Le siège du RN a été perquisitionné le 9 juillet dernier. Au mois de juin, le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin était entendu en tant que suspect libre. Le Conseil de l'Ordre des médecins, le Conseil national, prend position contre la loi Duplomb qui permet la réintroduction sous condition d'un pesticide interdit en France depuis 2018. Cette instance affirme, je cite, que sur le plan médical, le doute n'est pas raisonnable lorsqu'il s'agit de substances susceptibles d'exposer la population à des risques majeurs. Plus de 2 millions de personnes ont signé une pétition qui demande au chef de l'État de ne pas promulguer la loi Duplomb adoptée au Parlement le 8 juillet. C'était Conseil du ministre ce matin et au programme notamment la présentation d'un projet de loi cadre porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Il vise à faciliter la restitution des biens coloniaux. Deux textes existent déjà. L'un sur les spoliations antisémites, l'autre sur les restes humains. Reste donc à faire adopter le troisième qui concerne les biens culturels mobiliers spoliés par la France, principalement dans les pays africains lors de la colonisation et qui sont aujourd'hui exposés dans nos collections, nos musées, malgré les promesses d'Emmanuel Macron depuis son discours à Ouagadougou, au Burkina Faso en 2017 et le rapport Faire Savoir l'année suivante. Les restitutions par la France se font encore au compte-gouttes depuis cette date. Imaginez que moins de 30 objets ont été restitués, dont 26 au Bénin. Bonjour Marion Ferrer.
Bonjour.
Marion, ce projet de loi, disons-le, doit permettre de simplifier la procédure.
Et de passer par décret et le Conseil d'État, décharger donc le Parlement de cette tâche extrêmement longue, le patrimoine culturel français étant inaliénable propriété de la nation. Jusqu'à présent, il fallait une loi par objet à restituer. Et vous l'avez dit, depuis 2017, moins de 30 objets ont été restitués au Sénégal, au Bénin et à la Côte d'Ivoire. Or, les demandes existent et s'accumulent. Une dizaine d'États en ont formulé, dont l'Algérie, le Mali et l'Éthiopie. Emmanuel Macron souhaite donc accélérer les choses afin de renouveler les relations de la France avec les pays d'Afrique principalement. Il faut aussi apaiser les mémoires, nous glisse un conseiller. L'objectif de ce texte, c'est donc permettre la réappropriation de ces biens par les peuples volés, la réparation matérielle aussi. Sont concernés par ce projet de loi les œuvres ramenées en France entre 1815 et 1972, période qui couvre la colonisation. Des objets qui auraient été acquis par le vol, le pillage, la contrainte ou encore l'appropriation illégale. Si cela est confirmé et que ces pièces en ont été réclamées par un État, alors la France devra les restituer. Le cas échéant, et pour enlever tout doute, une commission sera mise en place composée par des experts français et du pays demandeur afin de certifier l'origine de l'objet. De leur côté, les musées doivent aussi entamer un très long processus de recherche pour définir l'origine de leur collection. Travail déjà entamé par le Quai Branly.
Marion Ferrer, merci. Vous avez sollicité Saskia Cousin-Couton, anthropologue, professeure de sociologie à l'Université de Nanterre. Elle travaille sur le sujet depuis 5 ans avec une vingtaine de collègues. Elle espère que les choses vont enfin avancer car les enjeux sont majeurs pour les pays demandeurs.
J'ai bon espoir que là, on parvienne à quelque chose, même si ça passe par des décrets en Conseil d'État. C'est peut-être pas forcément une victoire d'un point de vue démocratique du côté français. Par contre, c'en est une du point de vue des pays les premiers concernés qui vont enfin pouvoir établir leurs demandes. ce qui n'était pas le cas, par exemple, parce que pour le Bénin, par exemple, ce n'est pas le gouvernement du Bénin ni l'État du Bénin qui ont choisi les biens qui ont été restitués, même s'ils étaient importants. Donc, avec ce texte et la possibilité de passer par le Conseil d'État, les États, les premiers concernés, vont pouvoir établir leur liste eux-mêmes, à condition, évidemment, qu'il puisse y avoir une transparence à la fois sur les listes, les répertoires, les inventaires, sur les recherches possibles. Évidemment qu'il y a un enjeu de diplomatie culturelle, hein, mais il ne faut pas que ça masque la question de pourquoi et comment les pays, les premiers concernés, ont besoin de ces objets. Je me souviens de mon collègue Didier Wenoudé, qui, historien de l'art, qui racontait que quand il faisait des cours dans les années 2010 d'histoire de l'art africain à ses étudiants à l'université d'Abomey-Calavi, il n'avait rien à leur montrer. C'est-à-dire tous les biens iconiques de l'histoire de l'art africaine étaient en Occident.
Saskia Cousin-Couton, anthropologue et professeure de sociologie. Quelques mots de météo pour refermer cette édition. Quelques averses au nord et à l'est du pays ont des passagères sur le Béarn et le Pays Basque. Des orages sur un large quart nord-est dans l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, la technique Ludovic Auger.